Chers frères et sœurs, c'est une joie et même un honneur pour moi de présider, une fois n'est pas coutume, cette solennité de la Saint-Léon, évêque et martyr, premier évêque de Bayonne, fondateur de notre diocèse au IXe siècle et patron de notre ville épiscopale de Bayonne. Je suis en effet le 79e successeur de Saint-Léon, c'est-à-dire le 80e évêque de Bayonne. Pour l'instant, les Vikings des temps modernes ne m'ont pas encore coupé la tête. Car vous savez en effet que l'on sait peu de choses de Saint-Léon. Mais ce qui est attesté, c'est qu'il serait né en Normandie à 40 ans, non loin de Coutances. Repéré par le pape, il aurait été nommé et sacré archevêque de Rouen, puis envoyé à Bayonne pour encourager les chrétiens et évangéliser à nouveau ce territoire qui n'était pas encore structuré de manière autonome du point de vue de l'Église, dépendant encore de Dax, mais où les pirates normands, que l'on appelle les Vikings, répandaient la terreur. D'ailleurs, furieux devant le nombre important de conversions qu'il obtenait, furieux de le voir pourfendre les idoles, on dit même que la légende, par son simple souffle, il réduit en miettes une statue de Mars, le dieu de la guerre, auquel d'ailleurs on semble vouloir sacrifier encore aujourd'hui, y compris en France. Alors du coup, après avoir décapité ses deux frères qu'il avait accompagnés dans cette mission d'évangélisation, eh bien, ils le décapitèrent. Et comme d'autres saints, il est un céphalophore parce qu'il porta, d'après la tradition, sa tête pendant quelques mètres jusqu'à ce qu'elle tombât au pied des murailles, à un endroit où une source miraculeuse jaillit, à la fontaine encore de Saint-Léon, qui existe encore même si l'eau a été désormais détournée. Persécuté pour avoir annoncé l'Évangile, avoir témoigné de la foi, quelle que soit l'adversité et l'hostilité de ces Vikings qui ne voulaient pas qu'on entende parler de Jésus-Christ. Les persécutions qui ont toujours accompagné le pèlerinage de l'Église sur la terre et qui l'accompagneront jusqu'au bout, comme Jésus l'annonce lui-même dans son discours eschatologique, lorsqu'il dit que les persécutions feront partie des signes avant-coureurs de son dernier avènement dans la gloire. Persécution des Romains pendant 3 siècles, persécution au IXe siècle ici, sur notre territoire qui s'appelait Lapourdoum, qui a donné le mot labour avant que cette ville s'appelle Bayonne. Persécution tout au long de l'histoire, au siècle dernier, les martyrs du nazisme et du communisme qui continuent aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui sont persécutés en haine de la foi. Une ONG protestante qui s'appelle Portes Ouvertes a recensé 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde. 5621 ont été tués, massacrés en haine de la foi. C'est la Corée du Nord qui détient la Palme d'Or, mais aussi le Yémen, la Somalie, le Nigeria et les pays francophones de l'Afrique francophone épargnés jusqu'à présent, qui connaissent aussi la terreur du djihadisme islamiste. La semaine dernière, dans une petite église du nord-est du Burkina Faso, 15 chrétiens ont été assassinés en haine de la foi. Sans doute, dans nos états de droit, dans notre Occident jadis chrétien, nous ne connaissons pas encore les persécutions jusqu'à l'effusion du sang. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des persécutions plus pernicieuses et plus subtiles. La liberté d'expression, qui est tellement menacée, voire la liberté de conscience autour des questions de la vie, dont la valeur absolue est remise en cause jusque dans la Constitution, le socle fondamental du bien vivre ensemble dans une société humaine qui se respecte. Cette campagne virulente qui s'est déclenchée il y a quelques semaines contre les établissements scolaires d'enseignement catholique qui veulent être fidèles à leur identité religieuse selon le caractère propre qui est pourtant garanti par la loi française. Et cette culture laïciste qui veut détruire dans une culture wokiste toute référence à la culture chrétienne qui est le berceau même de notre civilisation. Vous savez, comme à toute époque de l'histoire, chaque fois qu'on a voulu détruire l'Église, qui se saborde d'ailleurs elle-même à travers les scandales, hélas, qui ternissent son visage, chaque fois qu'on a voulu effacer les références à Jésus-Christ, chaque fois qu'on a voulu détruire et éradiquer les chrétiens, l'Évangile s'est répandu encore plus dans le monde, car comme disait Tertullien, « Sanguis martyrum, semen christianorum », le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Lorsqu'en Gaule, on voulait éradiquer jusqu'à la mémoire des chrétiens en répandant leurs cendres dans le Rhône, c'est tout Lyon et toute la Gaule qui devinrent chrétiennes. Et aujourd'hui, alors que l'on connaît cet effacement, cette hostilité vis-à-vis des valeurs chrétiennes dans notre société française, le nombre des catéchumènes ne cesse de croître. Le 1er janvier, le premier dimanche de carême, j'ai célébré à Sainte-Bernadette d'Anglette les appels décisifs des catéchumènes adultes de notre diocèse. Ils sont 41, le double de l'an dernier, et l'année prochaine, il semble qu'ils seront encore le double, même si c'est encore peu pour nous, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui sont baptisés, plus qu'ailleurs en tout cas. 41 jeunes qui ont grandi dans un monde indifférent, qui ne les a pas portés dans la foi, même hostiles à la foi, et qui viennent frapper à la porte de l'Église pour demander les sacrements de l'initiation chrétienne. Comme Lana, aujourd'hui, je ne sais pas où elle est, elle ne doit pas être loin, elle est là. Lana, qui a été appelée, elle a 18 ans, et elle sera baptisée dans la nuit pascale, ici, dans la cathédrale, le 31 mars ce soir. Elle fait partie de ces catéchumènes qui ont été appelés de manière décisive à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne dans la prochaine vigile pascale. Et elle est invitée, comme les autres, à rejoindre aujourd'hui, troisième dimanche de carême, dimanche prochain et encore le dimanche suivant, leur communauté chrétienne respective pour la célébration du scrutin. Ce n'est pas un scrutin électoral, hein. Mais c'est un jour où les catéchumènes appelés vont se laisser scruter jusqu'à l'intime par la parole de Dieu, aujourd'hui l'évangile de la Samaritaine, pour reconnaître à la lumière de cette parole leurs péchés, dont le Seigneur veut les libérer, veut les sauver à travers les eaux du baptême. Et l'Église va prier pour elle, une prière d'exorcisme pour éloigner l'adversaire qui enrage de voir que Dieu, le Père, veut arracher aux ténèbres leurs âmes pour les transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Car le temps de la préparation au baptême, comme le temps de notre carême, chers frères et sœurs, rappelez-vous le mercredi des cendres, est un temps de combat spirituel. Le carême est un entraînement au combat spirituel. Nous avons toujours à combattre le mal en nous. À la suite du Christ, qui après son baptême a été jeté au désert, comme dit saint Marc, pour y être tenté 40 jours par Satan, ces fameuses trois tentations emblématiques de toutes les tentations, comme le peuple hébreu, qui avait été jeté dans le désert pendant 40 ans, après avoir passé la mer Rouge à pied sec, signe de sa libération de l'esclavage d'Égypte, figure de la libération de l'esclavage du péché que donne le baptême. Ils ont été eux aussi soumis à ces trois tentations du Christ, le Christ pour les vaincre définitivement, eux pour y succomber, comme si souvent chacun d'entre nous, la tentation des pains que les Hébreux ont connue à travers la tentation de la nourriture. On était si bien en Égypte. Notre petite zone de confort, les lieux affectifs et psychologiques où nous mettrons notre sécurité qui nous rend tellement peu sûrs face à l'épreuve et face à la mort. Quelles sont tes zones de confort à toi, où tu mets ta sécurité plutôt que de la mettre en Dieu et en Dieu seul, qui est ton abri, ton protecteur? La tentation du saut dans le vide, où Jésus est tenté d'éprouver son Père du haut du pinacle du temple, qui est la tentation de l'histoire, celle du peuple hébreu lorsqu'il murmurait contre Dieu et contre Moïse parce qu'ils avaient soif dans le désert. Le Seigneur est-il au milieu de nous ou non? Quelle est cette part de ton histoire que tu n'acceptes pas? Quelle est cette part de ta condition d'épreuve que tu refuses et qui est la source de ta révolte? Le Seigneur est-il ici ou non dans ma vie? Et la tentation des royaumes de la terre dont Satan fait miroiter la gloire à Jésus, qui est la tentation des idoles dont nous sommes encore tellement prisonniers, pourtant nous qui sommes baptisés, moi qui vous parle, de quelles idoles je suis encore prisonnier? De ces idoles du monde que Saint Léon pourfendait par sa prédication, l'argent, le pouvoir, le sexe, la drogue, que sais-je encore? De quelles idoles ai-je été libéré et de quelles idoles concrètement je suis encore prisonnier? Tu vois, Lana, tu vas être scrutée par cette parole de la Samaritaine en un discours un peu long, je reconnais aujourd'hui, mais c'est le temps d'écouter la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu, qui est une parole de vie. À travers ce discours, ce dialogue de Jésus avec la Samaritaine, c'est tout un chemin d'initiation chrétienne en raccourci. Cette femme qui s'approche de la margelle du puits de Jacob, où Jésus est assis, épuisé par la marche, et qui lui dit « Donne-moi à boire ». Elle ne comprend pas, elle. Elle reste dans les contingences matérielles, alors que Jésus, comme dit saint Augustin, était en train de lui dire, comme il te le dit, Lana, « Donne-moi à boire ta foi ». Et pourtant, il sait bien la condition de cette femme. Il sait bien que c'est une pécheresse. Comment, toi qui es juif, tu demandes à boire à moi qui suis une samaritaine? Si tu savais le don de Dieu, et celui qui te demande « Donne-moi à boire », c'est lui qui t'aurait donné à boire une eau qui jaillit pour la vie éternelle. Alors, effrontée, elle discute avec Jésus. « Bah comment? Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Comment est-ce que tu vas donner à boire? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui a bu ici avec ses fils et ses serviteurs ?» Et Jésus qui lui dit « Celui qui boira de cette eau aura toujours soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau jaillira en lui comme une source de vie éternelle. » Alors elle dit, exprimant cette condition qu'elle refuse de tout elle-même, contrainte à midi, à l'heure la plus chaude, de venir puiser de l'eau pour payer son tribut à ces hommes qui abusent d'elle en permanence dans le village des Samaritains. « Donne-moi de cette eau, parce que comme ça je ne viendrai plus au puits chercher cette eau. J'en ai marre de cette condition de vie qui m'est imposée. » Et Jésus brise le discours. Il blesse son orgueil et il lui dit « « Va chercher ton mari. » Et toute penaude, elle répond « Je n'ai pas de mari. » « Oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5 et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Et elle ouvre son cœur à la vérité sur elle-même. Les scrutins, c'est cela, Lana. C'est un temps pour se connaître en vérité devant Dieu, demander au Seigneur de nous révéler, et tous nous avons besoin de le faire, nous qui nous mentons sans cesse à nous-mêmes, ces tentations de notre vie, ces idoles dont nous sommes prisonniers, parce que Jésus veut nous en libérer, et son âme se libère, s'élève vers le ciel jusqu'à l'adoration, et elle reconnaît en Christ celui qui est le Messie, celui qui est capable de la sauver, de la libérer de sa situation de péché. Elle court vers les Samaritains en oubliant sa cruche et elle leur dit « J'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» Chers frères et sœurs et chère Lana, le Seigneur ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Quand le peuple hébreu succombait à la tentation, il leur a donné la manne, il leur a donné l'eau qui a jailli du rocher frappé du bâton de Moïse. Il leur a donné les paroles de l'Alliance. Aujourd'hui, il ne nous condamne pas. Il ne condamne pas les pécheurs que nous sommes. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et comment nous a-t-il prouvé son amour ? La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions ses ennemis, alors que nous sommes pécheurs, est mort pour nous. Nous nous mourrions volontiers pour un juste, mais pour un pécheur. Et c'est lui qui fait jaillir de ce rocher sur la croix, qui a été frappé par la lance du soldat, le sang et l'eau, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous sauve, qui nous libère. C'est la grâce du baptême que nous sommes appelés tous ensemble à renouveler. Et maintenant nous allons prier très fort pour Lana, qui va être scrutée par la parole et qui va recevoir cette prière de protection et d'exorcisme pour qu'elle puisse persévérer dans la conversion et ouvrir son cœur librement au flot d'eau vive qui vont jaillir dans son cœur au jour de son baptême pour la vie éternelle. Amen.